Les invités du grand entretien ce matin, elle est dessinatrice, c'est notamment pour Charlie Hebdo. Lui est professeur de philosophie sur tous les supports disponibles. Il signe une BD formidable inspirée du Banquet de Platon. Le texte est vieux de 2500 ans, mais tout le monde, un jour ou l'autre, s'est posé les questions du banquet. Pourquoi vivons-nous la solitude ou la séparation comme un manque, comme s'il nous manquait notre moitié? Comment continuer de désirer ce que l'on a déjà? L'amour physique s'oppose-t-il à l'amour absolu? Pour parler d'amour, mais pas seulement, chers auditeurs, le 01 45 24 7000 ou l'application France Inter, Coco et Raphaël Antoven sont avec nous ce matin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Ali.
Et bienvenue. On comprend enfin Le Banquet, qui est un texte difficile de Platon, grâce à vous notamment, Coco. C'est votre première BD pour l'un comme pour l'autre.
Oui.
D'où vous est venue l'idée d'adapter ce texte-là en particulier ?
Ça, c'est une idée de Raphaël à la base. En fait, à la maison d'édition Les Échappées, on avait travaillé il y a 2 ans peut-être sur des classiques de littérature qu'on avait illustrés, et on a eu envie d'être un peu plus ambitieux, de traiter un peu de philosophie. On a naturellement fait appel à Raphaël Antoven, qui est juste prof de philo, quoi.
Mm-hmm. C'est vrai.
Et voilà.
Et pas parce que c'est un banquet où il est question de beuverie.
Non, on va garder les vieux dossiers.
Voilà, c'est ça.
On va pas tout dire.
On peut enseigner la philosophie et aimer la beuverie. Hein.
Justement, c'est ce que montre Le Banquet. Le banquet, c'est une beuverie, c'est plusieurs personnages, dont Socrate. Et ils doivent faire le plus bel éloge possible de l'amour. On croise Socrate, Alcibiade, Agathon, Aristophane, Diotime et Raphaël Antoven, Coco.
Oui.
Vous l'avez dessiné il y a 2500 ans, on le voit en toge.
Exactement. L'intérêt du livre, c'est d'avoir un petit philosophe un peu sur son épaule qui apporte un complément au texte et qui explique, et puis ça rend le truc aussi marrant. Il agit un peu comme un petit fantôme parmi tous ces personnages.
Je suis le compagnon des lecteurs, je suis l'effet spécial, si vous voulez, l'intercesseur en fait, qui s'arrange pour, quand le texte devient un tout petit peu délicat ou difficile, apporter des éléments de traduction, de compréhension, enfin tenir la main du lecteur tout simplement.
On va en parler, on s'en va avec vous, on part avec vous dans l'une des soirées fondatrices de la philosophie. Il est donc question d'amour, il doit faire l'éloge d'Eros, le dieu de l'amour. Quelle est la définition de l'amour, puisqu'il y en a plusieurs dans Le Banquet, que vous préférez, Coco?
Simplement graphiquement, et parce que c'est aussi une belle histoire, un beau mythe. Le mythe d'Aristophane, par exemple, c'est un discours fondateur du banquet. L'histoire des hommes boules, de la naissance des humains, du mâle, femelle, androgyne. Et puis, un truc qui est encore très actuel, le fait de rechercher sa moitié, ou quand on aime, on forme un tout. Voilà, c'est ces choses-là, par exemple.
Explication de texte, monsieur le professeur, du mythe d'Aristophane.
C'est vraiment ce qu'Aristophane raconte. Quand on lit le mythe d'Aristophane, on est lu par lui. C'est-à-dire qu'on retrouve tous les moments de la vie où on a cru que l'autre était notre moitié et que sans lui, on était séparés de nous-mêmes. On a tous aimé de cette façon-là. Et Aristophane explique ça. Alors, il donne une version mythologique de ça. Il dit, au départ, on était des boules. On avait 4 jambes, 4 bras, 2 têtes, les organes de la génération à l'extérieur. Et voilà. Et on était comme ça. Et puis Zeus, comme on a voulu envahir l'Olympe parce qu'on se sentait fort, Zeus nous a coupé en deux. Apollon nous a cousu, a créé le nombril, et donc le nombril est né d'un coup de foudre, et puis au-delà de ça, après, les individus se recherchaient leur moitié et dépérissaient. Alors Zeus a mis les organes de la génération sur le devant, de façon à ce que, faute de faire boule pour l'éternité, on puisse s'emboîter un peu de temps en temps et retrouver l'illusion de la fusion. Et c'est comme ça qu'il explique le désir fou, et c'est comme ça qu'il explique l'amour, et c'est comme ça qu'il explique que quand on est séparé de quelqu'un, on est séparé de soi-même. C'est magnifique. Le mythe d'Aristophane est un passage magnifique. Et je veux juste dire ça, c'est d'autant plus élégant de la part de Platon qu'Aristophane est historiquement à l'origine, enfin il a joué un rôle très important, dans la condamnation à mort de Socrate, qu'il avait tourné en ridicule et dont il avait accrédité les chefs d'accusation.
Comment est-ce qu'on dessine la beauté, Coco? Puisqu'il est question de la beauté, quand on doit dessiner de grandes idées comme celle-là, à un moment, vous mettez en scène dans la BD avec une double page assez formidable où vous êtes en panique et vous appelez Raphaël Antoven parce que vous ne voyez pas comment mettre en dessin une idée, un concept.
Oui, c'est un petit passage. On s'est dit que ce serait marrant de le mentionner.
Puis vrai
dans
de vrai,
la BD.
En plus, hein.
Oui, vrai de vrai, ouais, vrai de vrai. En pyjama, lui en calbut, on s'appelle. Ah mince, je m'en sors pas de dessiner cette beauté là dans le discours de Diotime. Comment on fait
Et ben comment on fait d'ailleurs
Comment on fait Alors ben en fait traduction Raphaël Antoven. Bah écoute, la beauté c'est abstrait, on peut pas la représenter comme ça, si ce n'est par l'éblouissement de celui qui la voit, qui la regarde.
Le problème auquel Coco était confronté est un problème typiquement platonicien. Pour Platon, la beauté est au-delà de la représentation, elle est au-delà de l'incarnation. C'est pas, la beauté ne peut pas être incarnée en une personne. Il faut penser la beauté elle-même. Le problème, c'est quand on pense la beauté elle-même, on la pense au-delà des formes. Alors, accrochez-vous pour la dessiner. Et Coco était confronté à ça. Une beauté sans forme. Et là, la plume se casse, elle me dit, mais comment je dessine ça?
Oui.
Et je dis, mais en fait, l'enjeu n'est pas de dessiner la beauté, il est de dessiner l'effet de la beauté sur un visage. Et donc, la page est très belle. On a Socrate le jeune, dont on voit le visage progressivement émerveillé par ce qu'il entrevoit et qui n'est pas représentable. C'est comme ça qu'on s'en est sorti.
Et quand on a travaillé comme ça vraiment en duo. Je lui ai montré les dessins, vous voyez comment il est foisonnant d'idées, de paroles, et du coup
Raphaël,
ça m'a... Oui,
Antoven, pas Platon.
Non, pas Platon.
Nous, lui-même.
Il y a une scène qui est très forte et que vous illustrez dans cette BD, c'est Socrate qui ne veut pas coucher avec le bel Alcibiade. Pourquoi est-ce que c'est un moment fondateur dans la réflexion sur l'amour?
D'abord, c'est une chose bizarre, puisque Socrate est laid, il fait commerce de sa laideur, hein. Il dit c'est la preuve de sa beauté intérieure, d'une certaine manière, c'est ça qu'il vend. Socrate est très laid, Alcibiade est très très beau. Et donc Alcibiade se dit, je vais lui donner un peu de ma beauté, comme je peux, et puis lui va me donner un peu de son intelligence. Et Socrate lui dit, non, tu me proposes d'échanger du cuivre contre de l'or, parce que ta beauté, elle va pas durer, alors que la beauté, elle... Ça, oui, ça, il faut la chercher. Mon intelligence, elle, est durable, celle que tu me prêtes. Donc, plutôt que de coucher ensemble, parce que l'amour physique est sans issue, en somme, comme dirait Gainsbourg, on va essayer ensemble de comprendre d'où te vient cette beauté et de faire de notre amour.
Mais
On a mieux à faire que faire l'amour. On va utiliser notre amour pour produire des choses belles, aller vers la beauté. Or, évidemment, on a ceux qui disent, ben voilà, c'est un amour platonique qui ne veut pas s'abîmer dans le physique et s'élever au-delà de ça. Et puis il y a ceux qui disent, ce sont deux personnes qui s'aiment et qui font pas l'amour, faut vraiment être con. Donc il y a vraiment deux écoles. Il y a vraiment deux écoles de lecture de ce moment-là. Et c'est un moment très important dans la vie. On a tous eu cette alternative.
Mais qu'est-ce que c'est que cette métaphysique où deux êtres qui s'aiment ne couchent pas ensemble?
C'est une autre façon de le dire.
Oui.
C'est ça.
Oui, ben,
vous regardiez ça justement avec distance en se disant, mais il est vraiment fou, Platon? Ou est-ce que vous vous dites, c'est très contemporain comme question?
Moi, ça m'a fait beaucoup marrer. C'est vraiment le dialogue qui m'a fait le plus marrer dans cette opposition du mec beau mais con et l'autre
Alcibiade,
très intelligent et très moche.
Socrate.
On a deux antagonismes là qui sont face à face. Et ceci dit, ben voilà, il parle. Bon, c'est vrai qu'il baisse pas, mais voilà, ils font l'amour autrement.
Mais oui, et le râteau d'Alcibiade est quand même la première leçon retranscrite de philosophie de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que la philosophie commence
par... La première leçon de philosophie...
C'est un maître qui refuse de coucher avec son élève, c'est-à-dire qu'il ne veut pas l'éduquer de cette façon-là.
Il y a beaucoup de gens qui regardent ce texte, Le Banquet, comme un texte sur l'homosexualité, ou en tout cas qui ferait l'éloge de l'amour entre les hommes. Est-ce que c'est une grille de lecture qui est anachronique?
Il me semble qu'elle est anachronique.
Raphaël Antoven.
Ce serait mettre ce texte au service de causes qui ne sont pas exactement les siennes. L'homosexualité n'était pas un problème à Athènes. La sexualité n'était pas un problème. On couchait avec les gens qu'on trouvait beaux. Si vous voulez, c'était pas un problème au sens où il n'y avait pas de différence de nature dans l'esprit collectif, si vous voulez, entre le fait, quand on est un homme, de coucher avec un homme ou de coucher avec une femme. Reste que, quand deux hommes sont ensemble, l'impossibilité de se reproduire, la GPA n'existait pas, l'impossibilité de se reproduire les met en situation, dit Platon, de produire autre chose que des enfants, bon, des gamins qui pleurent et qui braillent, etc. On peut produire des lois, on peut produire des discours, on peut produire des initiatives, et ce qui est beau, c'est la fécondation d'un individu par l'autre, mais c'est une fécondation non sexuée qu'il faut élever au-delà.
Coco ?
Moi, j'avais une réflexion un peu plus simple, mais je repensais en dessinant, vu que je suis dessinatrice de presse, j'avais quand même dessiné pas mal sur le mariage pour tous, qui avait été une galère quand même à adopter.
Ouais, bien sûr.
Et quand il a fallu dessiner des hommes qui s'aiment, j'étais contente parce que il y a eu quand même une France assez réac qui s'est opposée, ne serait-ce qu'au mariage pour tous.
Et là, vous les dessinez de manière totalement naturelle.
Oui,
on a le sentiment que vous avez la tendresse,
oui,
que ce sont
ça
vos
que
copains.
Ça doit se passer, bien sûr.
Ce qui est assez marrant, c'est que la France réac dont parle Coco est également une France qui en général déplore la baisse du niveau dans les écoles et le fait qu'on ne lise plus les classiques. Mais si on avait lu ce classique-là, toute cette France-là, en revanche, se retrouverait le bec dans l'eau.
Il faudrait donc que tout le monde lise
le banquet
de Platon.
Absolument.
Est-ce que les Grecs croyaient en leur dieu? Est-ce qu'ils croyaient au dieu de l'amour, par exemple, Eros, comme aujourd'hui on croit au dieu monothéiste?
Alors, dans le banquet, Eros n'est pas exactement un dieu. C'est le résultat de l'accouplement de Madame Vide et Monsieur Plein, ou de Madame Sottige et Monsieur Intelligence. Il est le bâtard dialectique de ces deux-là, donc il vit comme un va-nu-pied, et il a en lui l'idée d'une plénitude, à l'image des grands baiseurs qui ont la nostalgie de l'absolu, si vous voulez. Et c'est ça qui se passe, c'est ça que ça raconte. On peut pas parler d'un dieu, c'est plutôt la philosophie elle-même, l'amour, parce que c'est un lieu commun. La philosophie est amour de la sagesse. Or, ce qu'on désire, ce qu'on aime, dit Platon, c'est ce dont on manque. Par conséquent, la philosophie n'est pas la sagesse. De la même manière, l'amour n'est pas exactement un dieu, n'est pas la beauté, il est désir de beauté, désir de divinité.
Je vous pose la question parce que vous êtes tous les deux des militants de la laïcité, on peut le dire très simplement comme ça, et là vous dessinez un monde où il y a des dieux justement, plusieurs dieux, un monde polythéiste, vous le dessinez en souriant. Aujourd'hui la question de la religion, elle est beaucoup moins drôle dans l'espace public, et c'est une bataille qui se mène sur une ligne de crête, Raphaël Antoven. Comment est-ce qu'on peut tenir un discours très critique sur la religion, je pense par exemple à vos discours sur le voile islamique, sans être renvoyé du côté des extrémistes de droite?
C'est très très important de pouvoir tenir cette ligne de crête, c'est très très important. En ce qui me concerne, il serait monstrueux d'interdire le voile, comme il serait monstrueux d'interdire qu'on le critique. Voilà, la ligne de crête, elle est là, c'est très compliqué de la tenir, c'est très compliqué de dire à la fois, de défendre la possibilité ou la liberté pour chacun de porter le voile sans se voir accusé de je ne sais pas quoi, d'islamo-gauchisme. C'est très difficile de dire à l'inverse qu'on n'aime pas ce vêtement, qu'on n'aime pas ce qu'il signifie, ce qu'il symbolise, ou la façon dont il est vécu par certaines personnes qui le portent et que je connais, qu'on n'aime pas ça sans être immédiatement identifié à des positions fascistes, grotesques, vieille France, etc. Et donc, comment tenir la crête républicaine entre ces deux identitarismes qui sont d'un côté le communautarisme et de l'autre côté une conception totalement antédiluvienne du pays où on se trouve, c'est très compliqué. C'est très compliqué, on fait l'objet de vindictes, d'une double vindicte. Mais c'est une position que je maintiens.
Coco,
oui, ben moi
vous le faites souvent avec vos dessins, avec de l'humour. Il y a un dessin que vous avez publié cette semaine sur le site de Charlie où l'on voit deux femmes, l'une voilée, l'autre pas. Celle qui ne porte pas de voile dit « Je suis iranienne et je risque ma vie pour enlever mon voile ». Réaction de la femme voilée « Je suis française et je te pisse à l'arrêt
oui. ». Bah en fait, moi, je suis féministe, je suis pour l'égalité homme-femme et je ne peux pas défendre un vêtement politique qui veut que la femme couvre ses cheveux pour ne pas tenter l'homme. Je trouve ça absolument aberrant comme concept.
Mais vous retrouvez dans cette contradiction que décrivait Raphaël Antoven à l'instant? Être très critique, par exemple, sur le voile contre l'islam politique, et de l'autre, ne pas vouloir être renvoyé du côté de gens que vous combattez.
Bien sûr, je veux pas être assimilée. C'est pas du tout la même chose, comme vous le dites, la crête est mince. Moi, je crois que c'est naturel en fait de pouvoir. C'est comme dans mes dessins en fait. Dans les dessins, on essaye d'être libre. On a le droit quand même de critiquer tout quoi.
Il y a personne. À Charlie, ça c'est sûr.
Personne n'est. Personne n'en va de ça. Voilà, j'ai envie de défendre ça. J'ai envie de me placer du côté de la femme qui se libère de ça, de l'iranienne qui a quand même le courage de faire ça dans son pays. Et nous, on est dans une démocratie libre. Voilà, je me questionne là-dessus. Oui, je me questionne sur les femmes qui portent le voile islamique.
Et puis sur un féminisme qui, quand même, c'est un féminisme problématique, c'est-à-dire que on est en présence en fait avec ce qu'on appelle l'intersectionnalité aujourd'hui, le sentiment que les luttes doivent converger. On est en présence d'une minoration historique.
Explication de l'intersectionnisme.
C'est l'intersectionnalité, c'est très simple. C'est le sentiment, comme dirait Chirac, que les emmerdes volent en escadrille, si vous voulez. Et que quand vous êtes déclassé socialement, vous l'êtes également racialement, etc. etc. Et ce qui a sa pertinence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'intersectionnalité qui a eu sa pertinence à son apparition est mise au service d'une minoration du féminisme au profit de l'antiracisme. C'est-à-dire que le voile qu'on peut à bon droit combattre au nom du féminisme, le combat contre le voile est immédiatement indexé sur du racisme ou de l'antiracisme. Et donc, l'enjeu, c'est de neutraliser au nom du racisme une parole qui est une parole libératrice pour les femmes. Donc voilà, c'est un combat très très difficile à mener.
Dans l'un de vos textes, Raphaël Antoven, vous critiquiez Emmanuel Macron et son discours, celui qu'il avait prononcé au Collège des Bernardins en 2017 sur la laïcité, justement. Oui. Je vous cite, la laïcité de l'État implique bel et bien que le politique ait une prééminence définitive sur le religieux. Oui. Sinon, la France cesse d'être un État laïque pour devenir un monde où les religions ont leur mot à dire sur le mode de vie des gens. Et ce monde-là, c'est l'enfer.
Oui, ben c'est la différence entre, c'est la nuance que je réprouve, pour le coup, que je récuse d'Emmanuel Macron et à sa suite de d'autres personnes, entre le fait que l'État devrait être laïque et la société, elle, ne l'est pas. C'est une nuance que faisait Paul Ricoeur au départ. Or, Paul Ricoeur faisait cette nuance, le philosophe Paul Ricoeur faisait cette nuance, en protestant d'ailleurs, faisait cette nuance contre la loi de 2004 sur le port des signes religieux. En reprenant cette nuance, j'ai le sentiment que le président de la République a implicitement s'oppose à cette loi, et on ne l'a pas entendu d'ailleurs sur cette loi lui-même. L'aurait-il voté s'il avait été député à ce moment-là? Je n'en suis pas certain.
Coco, vous avez dessiné ces dialogues fascinants que raconte Platon, où on essaye de définir ce qu'est l'amour, où on échange en se respectant. Comment est-ce que vous regardez les polémiques qu'entretient Raphaël Antoven régulièrement sur Twitter, les combats qu'il mène, son discours à la convention de la droite, ou
son
débat?
On y était ensemble, pas un pur hasard d'ailleurs.
Oui, en fait, moi, c'est
vous étiez aussi à la convention de la droite organisée par Marion Maréchal.
J'y étais pour Charlie, pour faire un reportage sur l'événement entre guillemets avec
toi,
la palmeraie.
Hein,
non, non, j'étais pas invitée. Raphaël est passé juste après le discours de Zemmour, qui moi, franchement, j'ai trouvé Zemmour vraiment flippant, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Il était flippant. On aurait dit Dark Vador après enfin, c'était sale, quoi. Je voudrais pas reprendre ce qu'il a dit, mais j'étais contente, en fait. Après le discours de Raphaël, j'ai eu comme un peu une forme d'espoir.
D'espoir?
Pas d'espoir, voilà, il peut pas. Il est là pour apporter la contradiction dans un événement où il est la bête noire, on va dire. Mais il le fait, il a le courage d'aller le faire. J'étais moi aussi sceptique sur sa venue là-bas.
Ouais.
Et finalement, j'ai pas été déçue parce qu'il apporte la voix de pas mal de gens qui aimeraient pouvoir contrer ce mec aux idées abjectes.
Vous avez encore débattu avec Éric Zemmour à la télévision cette semaine, Raphaël Antoven. À quoi ça sert?
Ça me semble très important. Il me semble très important qu'Éric Zemmour, en tout cas, puisse débattre et puisse avoir des interlocuteurs, des adversaires. Et inversement, Éric Zemmour incarne une vision du monde que je combats de toutes mes forces, à laquelle je n'adhère en rien, et qu'il me semble essentiel de combattre et dont j'ai l'impression qu'elle prospère chaque fois qu'on la condamne et qu'on veut la bâillonner. Donc il me semble au contraire qu'il faut qu'Éric Zemmour parle. Tous les jours, ça me semble excessif, mais qu'il faut qu'Éric Zemmour parle et qu'il trouve face à lui des gens pour lui répondre. Je vois pas de problème là-dedans, en fait.
Coco?
Moi, je suis pas pour interdire les gens de parler. Je serais bien malhonnête de prôner la liberté d'expression et puis de pas prôner la liberté d'expression, même pour Zemmour. Ceci dit, j'irai pas vendre ma soupe chez lui ou j'irai pas faire ça. J'irai pas rencontrer Zemmour pour discuter avec lui.
La parole aux auditeurs de France Inter. Bonjour Roland.
Oui, bonjour.
Merci d'être au bout du fil. Votre question à Coco et à Raphaël Antoven.
D'abord, j'étais ravi d'entendre deux personnes traduire en bande dessinée un sujet aussi intéressant que Banquet de Platon, et je vais m'apprêter à l'acheter. Et alors, je m'interroge parce que ce matin, il a été évoqué Eros, le dieu de l'amour, abondamment, et je n'ai pas entendu parler des trois autres noms de l'amour, tels que le décline les Grecs, Agapé, Sorgé ou Philia, qui auront aussi leur sens. Et il me semblerait utile et intéressant de les retrouver dans cette bande dessinée, de sorte que chacun puisse faire la part des choses en termes d'amour.
au boulot, Raphaël Antoven, pour répondre à Roland.
Oui, oui, non, c'est vrai qu'il y a différentes façons d'aimer, des façons non sexuées, des façons amicales d'aimer également, et que c'est une typologie que les Grecs ont mis au point. Reste que dans le texte de Platon lui-même, dans le Banquet, c'est vraiment Eros, la naissance d'Eros, et les problèmes que pose le genre de désir auquel on fait appel ici, et la conversion du désir. On aurait difficilement pu évoquer les autres façons d'aimer et cette typologie fameuse sans sortir, à mon avis, trop du texte et peut-être aussi perdre le lecteur. Pas vous, monsieur, mais d'autres lecteurs.
Bonjour, Alex.
Bonjour. Excellente idée de faire cette VD. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit la dame. Et j'ai simplement
avec Coco.
Dit que... Coco, pardon, c'est l'émotion. Bon, et je trouve que c'est très 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 bien, je suis tout à fait d'accord. Et les religions ont trop sacralisé, entre guillemets, dans le mauvais sens, cette activité de l'être humain, qui est à travers cette excitation neuronale, physique, des peaux, et il comprend l'autre, et qu'il se comprend soi-même. Et des religions qui promettent... oblige à avoir une zéro activité sexuelle ici pour, dans l'au-delà, à avoir 70 vierges, je trouve que c'est une idée complètement stupide.
Coco va vous répondre, Alex.
Vous pouvez me mettre une petite chose à propos du voile. Tant que le voile, c'est une obligation pour certaines femmes dans certains pays, nous ne devrions pas l'accepter ici. Quand ces religions-là cessent de châtier les femmes de façon publique, parce qu'ils portent les voiles, ils n'auraient aucun problème. Mais moi, simplement, je dis, les femmes aiment s'habiller différentes, des couleurs, etc. Personne ne va me faire croire que ces femmes dans ces pays-là aiment s'habiller toutes avec un uniforme noir, en forme, toutes pareilles comme une masse noire.
Alors, laissez, justement, Alex, laissez Coco et Raphaël Antoven vous répondre. Et d'abord, sur la liberté de jouir, au fond, que réclame... Alex, dans des sociétés trop religieuses qui ont sacralisé les activités sexuelles des hommes et des femmes, Coco.
Ben oui, ben je la religion, ça va pas trop avec la liberté sexuelle en général, mais il faut pas voir le côté tout noir de la société. On est dans une société aujourd'hui qui est quand même aussi ouverte aux polyamoureux, aux pansexuels, l'homosexualité. Tout le monde s'aime, on s'aime comme on veut, donc il y a que dans la sphère religieuse. Je sais pas si je réponds très bien, enfin ceci dit,
si
mais
si vous répondez bien,
voilà, on est quand même.
Et à propos
assez
des
libre.
Femmes, il y en a une d'ailleurs qui n'est pas voilée dans la BD ni dans le Banquet de Platon,
c'est
Diotime.
Qui est au cœur du texte.
C'est l'une des seules femmes.
C'est la seule femme.
C'est la seule femme.
Et c'est le plus grand discours qui est porté par une femme qui est Diotime. Hein.
Elle dit un truc sur les gens qui croient se compléter quand ils aiment. Et qu'est-ce que ça vous inspire, Raphaël Antoven ?
Non, mais en l'occurrence, elle attaque justement Aristophane, parce qu'elle attaque Aristophane quand il dit qu'on a besoin de l'autre pour être complet, pour être tout entier. Elle développe une conception de l'amour où elle explique que amour est philosophe. Il est la philosophie lui-même. Il est la philosophie en personne, dans la mesure où amour est ce qui nous conduit, si vous voulez, de l'expérience la plus ordinaire que nous faisons de la vie jusqu'à la réflexion sur cette expérience et la façon de le penser. Et c'est exactement le chemin que Socrate propose à Alcibiade.
Et Coco,
c'est beau que ce soit une femme qui le dise.
Concernant Diotime, petite anecdote, on s'est un peu consulté pour savoir comment elle serait physiquement, cette Diotime. Raphaël me disait, il faut une femme de caractère, tout ça, et est tombé le nom de Jeanne Masse. Je ne sais pas pourquoi.
Donc Diotime ressemble à Jeanne Masse.
Voilà, donc elle a quelque chose un
elle
peu
a quelque
de,
chose de
Jeanne
Masse.
C'est vrai. Voyage, ça.
Non, c'est Désirless.
Ah, non, ça c'est Désirless.
C'est Désirless.
C'est en rouge et noir, Jeanne
ah,
Masse.
Oui,
c'est
à
mi-chemin de Jeanne Masse et de Désirless, en fait. Elle a plus la coupe Désirless.
Parce que c'est une autre femme, c'est une déesse, oui. Mais malgré tout, vous êtes inspiré de qui pour la dessiner?
Ah, bah, elle est bonne, Aphrodite.
Elle est très sexy.
Ouais. Bah non, c'est une femme, comment on pourrait dire, plantureuse, comme dirait mon père.
Ouais. Et comment est-ce qu'on dirait chez Charlie?
Une belle femme, quoi. Toutes les femmes sont belles, de toute façon. Ça peut être n'importe quelle femme, mais une belle femme.
Et ce serait une très belle conclusion, d'ailleurs.
Voilà.
Toutes les femmes sont belles. Merci infiniment à tous les deux, Coco
Merci
et Raphaël Antoven. Le banquet d'après l'œuvre de Platon, c'est aux éditions Les Échappées. Je vous souhaite une excellente journée à tous les deux.
Merci.